Aujourd'hui, Paul s'adresse au sans-Dieu avec un D majuscule. Ben forcément, quand on parle de l'écriture, on s'adresse à des personnes qui croient en Dieu. Habituellement, c'est en tout cas comme ça. Et dans notre prière, souvent, dans notre souci, nous ne pensons pas à ceux qui ne croient pas en Dieu, parce qu'ils ne savent pas qu'il y a un Dieu, parce qu'on leur a jamais dit. Ça existe, des gens sans Dieu. Je me souviens avoir vu un jour, j'étais passé devant un poste de télé, c'était chez les petites sœurs des pauvres, et je sais pas quoi, j'avais allumé comme ça pour me distraire, c'était effrayant de nullité, et j'ai quand même vu un truc pendant 3 minutes qui m'a étonné, c'était une chanteuse très moderne, dont j'ignore le nom, et puis une autre pas connue du tout. Qui en fait était reçue dans l'émission. Et puis, le cadeau qu'elle a eu, ou je sais pas quoi, ou la surprise qu'a eue cette chanteuse méconnue, c'est justement que sur le plateau était invitée cette grande chanteuse mondialement connue, bon, etc. Et alors, la jeunette, en la voyant, a fait une génuflexion. Et l'autre est restée comme deux ronds. Et voilà, ça m'est resté comme souvenir parce que je me suis dit, ben voilà, en fait, pour cette jeune femme, la chanteuse professionnelle, c'est un dieu, quoi. Et donc, en fond, nous ne mesurons pas, nous ne mesurons pas la grâce que nous avons de croire en Dieu. On ne sait pas, hein. Qu'est-ce qu'on serait devenu? Posez-vous la question 2 secondes. Essayez de rembobiner votre vie en vous disant Dieu n'existe pas. Faites pas trop longtemps, hein, c'est un peu désespérant. Moi, je ne sais pas comment les gens font pour se lever le matin sans avoir quelqu'un à dire à qui dire je t'aime. Merci de m'avoir maintenu en vie. Merci de m'avoir créé. Merci pour cette journée. Merci d'être là tout le temps. C'est en fait le thème hein, qui traverse ces deux lectures. Et donc Paul évoque l'unification. L'unification des sans-dieux avec ceux qui avaient déjà un dieu, mais qu'ils ne connaissaient pas. Ce qui nous parle un peu, entre parenthèses. Hein. Parce que souvent on ne connaît pas bien Dieu. Je pense à des gens qui ne pratiquent pas. Ce qui n'a aucun sens. Hein. Moi, je suis vivant, mais je respire pas, quoi. Bon, d'accord. Et qui disent non, non, moi je veux pas à l'église quand on voit la tronche des gens qui vont à la messe, c'est pas la peine. Et bien justement, Jésus est venu pour les mal portants, et ces gens qui n'ont pas l'air très bien portants, qu'est-ce que ce serait s'ils n'allaient pas à la messe? Voilà. Donc c'est un raisonnement un peu erroné de penser ça. Et nous sommes donc tous ces fils et filles de Dieu, à notre insu ou en l'ayant appris. Ensuite, il faut y consentir et entrer dans la foi, évidemment, mais n'empêche qu'on est tous sortis de la main de Dieu. Et donc, Paul va jusqu'à nous dire que nous sommes citoyens du ciel. Donc faut arrêter de dire on est perdu. La petite Thérèse a dit, je ne sais plus où, que c'est pas étonnant qu'on soit si mal sur Terre. Imaginez-vous quelqu'un qui a des habitudes. Prenons un cas amusant, tiens, un breton avec du beurre salé par exemple, et qui se retrouve au Liban où il n'y a pas de beurre parce qu'il fait tellement chaud, avec un espèce de truc dégoulinant qui vient de chez les de Turquie. Je veux dire, il est perdu. Son petit déjeuner à la baguette et au café au Liban, ça peut être possible. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout ça le petit déjeuner là-bas. Bon voilà, bon alors c'est culinaire, hein, mais c'est du même ordre, on est perdu. On est perdu quand c'est plus notre pays. Regardez bon, les inondations, regardez les tempêtes, regardez les gens sont perdus dès que la nature s'est mise en furie. Autrement dit, quand on n'est plus dans notre élément, on est perdu, quoi. Donc c'est pas étonnant qu'on soit perdu un peu sur Terre de temps en temps, parce qu'on n'est pas dans notre élément. Notre élément, c'est le ciel. On a été créé pour le ciel. Et nous sommes donc citoyens du ciel. C'est quand même pas rien. Alors citoyen, ça veut dire qu'on participe à la construction. Ce que dit Paul, et je suis encore bouleversé de voir comment l'évangile présente ça finalement, quoi. C'est l'accomplissement de ça. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable comment le Saint-Esprit peut mettre les choses en perspective. Donc, et Paul achève avec un truc assez génial, je trouve personnellement, c'est que c'est parce qu'on participe à la construction qu'on est construit. Et c'est assez curieux, hein. En lui, vous êtes vous aussi les éléments de la construction pour devenir par l'Esprit Saint la demeure de Dieu. Donc en fait, en construisant la demeure de Dieu, l'Esprit Saint nous construit. C'est quand même génial, hein. C'est en faisant notre devoir de citoyen du ciel que l'Esprit Saint peut nous habiter de plus en plus et donc réaliser notre unité, parce que c'est le Saint-Esprit qui fait l'unité. Cette compénétration est absolument bouleversante. Elle nous parle de la Trinité. Hein. L'Esprit, c'est le don du Père au Fils et du Fils au Père. Voilà, c'est pas, c'est, on dit dans l'unité du Saint-Esprit, hein, dans les conclusions des prières. In unitate spiritus sancti, dans l'unité du Saint-Esprit. Donc avons-nous conscience de la présence de Dieu en nous? Je me souviens avoir dit un jour qu'en fait, quand on se croise entre chrétiens, au moins on devrait génuflecter les uns devant les autres. Voyez. Alors pas devant une star de je sais pas où, là. Qui au demeurant était peut-être chrétienne, du reste j'en sais rien, hein. Enfin bon, c'était pas immédiatement évident, mais aujourd'hui on peut absolument pas savoir, c'est impossible de savoir. Croiser un type avec des piercings et des tatouages partout, il va à la messe tous les matins à 7h, c'est possible, hein. J'ai vu. Donc voilà, la présence de Dieu en nous, est-ce qu'on y croit? Vous êtes le temple du Saint-Esprit, quoi. Mettez une bougie le matin en vous levant, à l'intérieur du temple. Bon, je ne dis pas de vous brûler, hein, mais... Ben voilà, c'est quand même de la folie, quoi. Et donc ça veut dire, à contrario, que quand on ne construit pas, eh bien, l'Esprit-Saint ne nous construit pas non plus. Donc on ne peut pas ne pas faire quelque chose. L'Église catholique est missionnaire par essence. Hein. Eh bien là, voilà, et les bras, c'est nous. Et alors dans l'évangile, on a l'exacte continuation de ça. Rester en tenue de service. Alors vous allez dire, oui, mais le serviteur, c'est un esclave, c'est pas la famille. Ouais, bah, attendez, regardez bien. Vous verrez que Jésus, il a pris le rôle du serviteur. Et que Jésus, c'est la famille. Donc, c'est pas parce qu'on est de la famille. Il faut pas se tromper là-dessus. Hein. La famille, ça consiste pas à s'asseoir autour de la table et à s'empiffrer. Hein. Quand on est de la famille, on se soutient mutuellement. Tout le monde fait ça dans ses familles, enfin, de vrai. Voilà, quand il y a un drame, on soutient. C'est là qu'on reconnaît les vrais amis, du reste, la vraie famille. Véritable famille qui a cette compassion qu'a Dieu pour nous. Et donc, le serviteur, il est serviteur parce que Jésus est serviteur et il est dans l'attente. Est-ce que tous les matins nous attendons la parousie? Non, ça ne peut pas arriver demain, mais qu'est-ce que t'en sais? Est-ce qu'on est tendu vers ce désir du retour du Christ, quoi? C'est des questions extrêmement profondes, ça. Hein. C'est extrêmement profond. Quand vous lisez la vie du curé d'Ars, là, et que vous voyez le bazar qu'il a pu mettre dans sa paroisse pour sortir ces païens, dont il est question justement dans l'épître de saint Paul, de leurs pratiques dangereuses pour leur foi, mais il y va pas par quatre chemins. Hein. Il leur dit, les petits gars, il fera bon en enfer. Ça va être bien, puis vos enfants, vous serez contents parce que c'est vous qui les y aurez mis. Et alors on va dire, tu es dépassé. Bah écoutez, je vais vous dire un truc. On en reparlera quand vous y serez, hein. Parce qu'apparemment, on peut s'entendre du ciel, hein. Du ciel en enfer, on peut s'entendre. On ne peut pas passer, mais on peut s'entendre. C'est ce que dit la parabole de Lazare. Voilà la nuance du service. Être de la famille de Dieu, c'est servir comme Jésus a servi. Voilà. Et comment Jésus a-t-il servi? Eh bien, Jésus a pu servir parce qu'il était déjà la demeure de Dieu, puisqu'il est Dieu. Et vous savez, au début des évangiles, au moment du baptême de Jésus, il est écrit, je ne sais plus dans quel évangéliste, tu restes peut-être les trois, puisque Jean n'en parle pas, je crois pas. On dit que le ciel s'ouvrit, avec une colombe. J'ai vu les cieux s'ouvrir, dit Jean-Baptiste. Ouais, bah il est écrit nulle part que le ciel se soit refermé. Il est écrit nulle part que le ciel se soit refermé. Ça veut dire que Jésus, il a vécu avec le ciel ouvert au-dessus de lui. Ça fait réfléchir quand même, hein. Il était en communion permanente, quoi. Alors évidemment, ça force à un petit passage. On ne peut plus voir les choses pareilles si on s'attend en ouvrant une porte à se dire peut-être que Jésus est derrière. C'est plus du tout pareil. Mais franchement, si vous avez des petits-enfants, essayez avec eux. Vous allez en faire des gens incroyables. Voilà. Je crois que l'évangile, il va. Enfin, tout ça va jusque-là, quoi. Ça va jusque-là. Est-ce que nous mesurons le truc inouï, quoi, d'avoir rencontré Dieu? Des gens qui ne le connaissent pas, qui ne savent pas. Ça existe, hein. De bonne foi, il y a des gens qui pensent que l'Église, c'est une multinationale. En plus, il y a des pédophiles. C'est réglé, quoi. Alors, on fait quoi pour montrer le visage de Dieu, le visage du Christ? Franchement, hein, c'est. Est-ce qu'on agit en gosse de riche ou est-ce qu'on va servir, quoi? C'est une vraie question, hein. Bon. Eh ben voilà. Gloire à Dieu.